aujourd'hui, l'expert comptable accompagne son client et il doit l'accompagner sur l'ensemble de ses risques. Et le client, en fait, attend de l'expert comptable que tous les risques lui soient présentés.
Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable. Et comme d'habitude, comme toujours, un nouvel épisode exceptionnel que je suis très heureux de faire avec toi Xavier. Aujourd'hui, un épisode sur une thématique dont on entend beaucoup parler puisqu'il s'agit entre autres de la RSE. Et en fait là, je vais vouloir dans cet épisode et grâce à toi qu'on vienne directement dans le vif du sujet. Tu vois, pas tout ce qui entoure la RSE, les grands mots, etc. Mais qu'on voit réellement, concrètement, aujourd'hui, comment toi dans ton quotidien et comment ça peut être dans le quotidien des confrères et des consoeurs. La RSE, un véritable sujet pour les cabinets et pour les clients. Ce qu'on va voir aussi ensemble dans cet épisode, bah, c'est un peu revenir potentiellement, si tu le souhaites et partager ça, le parcours de la création, démystifier un peu la création du cabinet d'expertise comptable Ex Nihilo. Et puis après, on pourra aussi voir tous les autres sujets que tu veux aborder. Un programme qui s'annonce riche, on est ensemble pour entre 45 minutes et une heure, hein, le transport, le temps moyen d'un transport coupé en deux. Et je suis vraiment très heureux. Merci d'être venu de Nantes aujourd'hui à Paris. Xavier, salut.
Salut, c'est avec plaisir que je suis ici et qu'on va pouvoir échanger sur ces sujets.
Eh ben écoute, bienvenue au micro du podcast. Xavier Rio, donc expert comptable à Nantes, fondateur d'un cabinet Ex Nihilo. Est-ce que, tiens, je te passe la parole pour que tu te présentes et que tu nous en dises plus.
Ah, on va dire très rapidement, moi j'ai un parcours classique. J'ai fait le DCG, le DSCG. En alternance. Par la suite, je suis resté dans mon cabinet où j'ai fait mon alternance pendant 2 ans. Après, j'ai bifurqué dans un cabinet plus structuré où je suis resté pendant 6 ans, où j'ai fait de l'audit financier, où j'ai pu accompagner des entreprises sur les sujets d'audit RSE, ce qui m'a amené à développer des compétences et une appétence pour ces sujets-là. Et il y a maintenant un an, on s'est posé la question de la création du cabinet Ex Nihilo. Et du coup, je vais pouvoir vous évoquer ce sujet-là avec plaisir.
Magnifique. Eh ben, écoute, tout un programme. On va commencer cet épisode, par revenir un peu sur... on va commencer par la création. Et en même temps, ça amènera certainement à l'offre RSE. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que toi, tu as voulu te créer et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te créer Ex Nihilo?
En fait, il y a plusieurs... Il y a eu plusieurs questions qui sont passées dans ma tête à ce moment-là. On va dire, en fait, il y a toujours plusieurs solutions. La première était de rester dans le cabinet où j'étais actuellement. On va dire la sécurité, le salaire tombe tous les mois. Et prendre un poste peut-être d'expert comptable lors d'un départ à retraite. Bon, voilà. La deuxième possibilité était de rejoindre un cabinet qui cherchait un expert comptable en place. Et il y avait encore une autre possibilité, rejoindre des réseaux qui existent, voilà, pour des créateurs Ex Nihilo, et enfin créer son propre cabinet. Alors, concernant les deux premières solutions, en fait, la première solution de attendre, on va dire, un poste qui allait se dégager peut-être, en fait, un peut-être, c'est toujours peut-être, et on n'est jamais certain. Et quand on souhaite devenir entrepreneur, en fait, c'est qu'on souhaite gérer et maîtriser son risque, et en fait, j'estimais que j'avais plus de risques à attendre que de me lancer. En fait, par la suite, du coup, il restait le choix de rejoindre un cabinet ou de créer moi-même. Et en fait, je me suis dit très simplement, rejoindre un cabinet actuel. Je connais le métier, je connais le monde des cabinets d'expertise comptable. C'est en fait se faire éclater par un portefeuille complet et juste être là pour produire et pas vraiment jouer un rôle d'entrepreneur. Et j'ai, en fait, j'ai mis complètement cette solution de côté, parce que de différents échanges que j'avais avec ce type de profil, à chaque fois on me disait, c'est pour reprendre un portefeuille créé, il y a une vingtaine de collaborateurs à gérer, etc. Et moi je me suis dit, non, en fait, ce que je souhaite, c'est d'être avant tout entrepreneur avant d'être un expert comptable. Donc c'est là où je me suis orienté vers la création de mon cabinet.
Okay.
Et du coup, le choix entre rejoindre une franchise ou créer ma propre structure, voilà, c'est posé à un bon moment. Et c'est vrai qu'au final, je me suis dit, rejoindre une franchise, ça ne va pas enlever l'aspect démarche commerciale propre. Et c'est juste que je vais payer un nom qui peut-être un jour ramènera un client. Mais au final, tout l'effort sera fait par moi-même. Donc autant que je crée tout seul et on verra bien de quoi sera fait le lendemain.
Ok, donc c'est ça ton schéma d'analyse. Super intéressant parce que c'est vrai que on discute souvent, je discute souvent avec des créateurs et ça explique bien ton deuxième schéma d'analyse. C'est pas une analyse qu'on entend souvent et qui est pourtant assez réelle. Donc merci pour ce partage.
Ben de rien.
Donc du coup, tu décides de te lancer, création ex nihilo, après cette analyse. Quelles sont les étapes pour toi de la création ex nihilo ?
En fait, dans la création ex nihilo, il y a eu plusieurs étapes. C'est déjà, ok, je veux créer mon cabinet, mais est-ce que je veux créer le cabinet lambda, comme tout le monde, ou est-ce que je veux créer vraiment un cabinet qui apporte une nouvelle démarche, une nouvelle offre, un véritable apport en fait à mes clients. En fait, je me suis dit, créer un cabinet lambda aujourd'hui, bon, ça sert à rien.
Qu'est-ce que tu appelles, c'est quoi pour toi un cabinet lambda ?
En fait, un cabinet lambda, c'est un cabinet qui va dire, je prends tous les clients, je prends de tout, je fais juste la saisie, la TVA, rendez-vous bilan. En fait, le cabinet qu'on a connu par ailleurs, c'est juste qu'on pose sa plaque pour faire la même chose qu'avant.
Ok. Donc une usine de prod, tu t'es dit, ça je veux pas le faire dès le départ.
Tout à fait. Okay. En fait, pour moi, l'usine de production aujourd'hui, va disparaître à terme et quitte à créer son cabinet, autant tout de suite se positionner sur un apport unique, son apport, et pas un copier-coller du cabinet d'à côté.
Ok, donc je reviens sur l'aspect du fait que tu aies voulu créer, choisir. À ce moment-là, tu décides de créer ton cabinet. Comment tu définis l'offre de service que tu as envie de faire ?
Du coup, au moment où j'ai réfléchi à l'offre de service, voilà, il y avait pour moi, il y a deux grandes offres aujourd'hui à développer dans un cabinet. C'est soit la partie technologie, tableau de bord intégré, haute, soit la partie RSE.
Ok.
Voilà. Alors, pourquoi ces deux offres ? C'est qu'en fait, la partie technologie, les entrepreneurs ont besoin aujourd'hui d'avoir des données fiables, des données immédiates, et de ne pas devoir envoyer un mail et attendre 15 jours pour avoir son analyse de marge. Moi, en tant que tel, je n'avais pas l'appétence aujourd'hui pour développer ce service-là. Du coup, par rapport à la partie RSE, j'ai développé par mon expérience passée une appétence et un plaisir en fait, de discuter de ces sujets-là avec l'entrepreneur. Et donc, je me suis tout naturellement orienté vers la partie RSE, qui vise à avoir une activité plus soutenable pour les entrepreneurs.
Ouais, il faut dire que c'est quelque chose que tu portes en vraie valeur, profondément ancrée chez toi, la partie RSE. Et donc, en fait, c'est la suite logique de ce que tu as vu au cabinet et que tu vas vouloir déployer jusqu'au point de choisir tes clients qui ont ces valeurs, qui partagent ces valeurs.
Tout à fait.
Et on va revenir sur la partie RSE. Qu'est-ce que c'était ce que tu faisais sur la partie RSE ? Parce que pour moi aujourd'hui, le RSE, je veux vraiment qu'on rentre dedans. Ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce que toi, tu faisais déjà dans le gros cabinet dans lequel tu étais avant ?
Dans le gros cabinet où j'étais avant, j'intervenais sur de l'audit extra-financier. Et en fait, je suis intervenu dans des contextes où des entreprises sont passées d'une réglementation à une autre. Sont passés de l'ancien rapport RSE à ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière. Demain, ça va encore changer. Et en fait, au moment du passage de la première bascule, il y a eu toute une interrogation de l'entrepreneur devait présenter son modèle d'affaires et ses enjeux, au final, RSE, en lien avec ce modèle d'affaires. Et c'est à ce moment-là, en échangeant, en accompagnant les clients à construire ces réflexions, où je me suis rendu compte que même une grande entreprise, certaines fois, elle se perd. Elle se perd dans son modèle d'affaires et dans sa création de valeur. C'est-à-dire que je suis intervenu dans des contextes où la boîte faisait 500 millions de chiffres d'affaires. Mmh. Voilà. Et on demandait au dirigeant, quelqu'un qui est quand même en poste, voilà, qui connaît par cœur l'activité, de nous résumer en 5 phrases comment l'entreprise crée de la valeur. Il était incapable de le faire.
Sur un grand groupe comme ça.
Voilà. Sur une structure voilà, qui avait 800 salariés, 500 millions de chiffres. Ouais. Voilà.
Oui, ce que personnellement j'appelle un grand groupe.
Voilà.
OK.
Et c'est là où je me suis dit, en fait, ça prouve que maintenant, les entrepreneurs ont besoin de maîtriser leur modèle d'affaires. Mmh. Alors, comment ils construisent de la valeur? Parce qu'en fait, avec que ce soit l'intelligence artificielle qui arrive, des nouveaux services, des nouvelles technologies, des nouveaux concurrents, on peut en fait avoir des bascules de modèles d'affaires que le dirigeant ne maîtrise pas. Mmh. Et du coup, la question est après, comment on intègre les enjeux RSE? Et c'est vrai que là, j'ai vraiment pris plaisir à discuter avec les dirigeants pour identifier ces enjeux et identifier avec eux comment les suivre pour vraiment rester pertinent dans chaque activité.
Et je peux me faire l'avocat du diable, parce que quand tu me dis ça, moi j'entends forcément ça parle à un grand groupe, ou du moins ça parle à des entreprises très structurées. La majorité des entreprises en France ne sont pas d'aussi grosses entreprises, et le portefeuille traditionnel d'un cabinet d'expertise comptable est fait en général d'une grosse partie de TPE. Comment, selon toi, et tu l'as pensé du coup dès la création, comment ça s'intègre cette partie RSE, cette mission RSE, sur un portefeuille ou sur le tissu économique normal traditionnel, je dirais?
En fait, le tissu économique traditionnel ou l'activité traditionnelle en cabinet d'expertise comptable, c'est vrai que c'est beaucoup de TPE. Mmh. Et en fait, les dirigeants aujourd'hui de TPE sont des dirigeants qui sont agiles et qui, au final, voient le monde changer. Mmh. Ils voient très clairement que, voilà, ils ont de plus en plus de clients qui leur interrogent sur le RSE, des fournisseurs et autres. Et c'est vrai que, bien souvent, le dirigeant sont seuls un peu... personne de confiance, ça va être l'expert comptable.
Bien sûr.
Et c'est vrai que là, très clairement, c'est un rôle à jouer de la part de l'expert comptable, de pouvoir accompagner son dirigeant dans ses enjeux et surtout dans des éléments très concrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expert comptable va identifier un risque sur un taux de marge, voilà, très facilement, c'est quelque chose de courant, quelque chose qu'on fait presque tous les jours. Mais demain, en fait, il devra analyser un risque sur l'environnement et dire aux dirigeants, voilà, tu as un risque, parce que, je vais te donner un exemple très concret, c'est-à-dire l'artisan, l'ébéniste, qui achète son bois au moins cher, sans regarder si c'est de façon durable, la forêt est gérée de façon durable ou pas, bah en fait, demain, ça se trouve, il n'aura plus de bois.
Ouais.
Et sans bois, bah, il n'aura plus d'activité. Et en fait, c'est ces sujets-là qu'il faut maintenant maîtriser pour être en mesure d'accompagner au mieux son dirigeant. En fait, on est sur des risques, mais des risques à 5 ans, 10 ans, et on est des risques sur le plus long terme avec nos clients que sur un risque de demain, quoi.
Donc pour toi, au quotidien, l'expert comptable doit rajouter cette corde à son arc, doit l'intégrer quasiment dans son offre et dans son discours, de pouvoir être capable de surveiller au même titre qu'on devrait pouvoir surveiller les marges de l'entreprise, surveiller ses risques environnementaux.
Tout à fait. En fait, aujourd'hui, moi, dans mon activité ayant créé Ex Nihilo, j'ai une grande partie qui est rattachée à des créateurs d'entreprise. Mmh. En fait, au moment où le créateur d'entreprise vient, bah, très bien, il me parle de ses risques, de ses enjeux financiers. Mmh. Moi, je le rappelle tout de suite face à ses enjeux RSE. Parce que souvent, bah, ils disent, OK, j'ai envie d'embaucher, mais en fait, OK, tu veux embaucher, mais tu veux embaucher dans quelle typologie, etc. Parce que recruter un salarié aujourd'hui, c'est compliqué. Et il faut qu'ils prennent en compte ça. Et également, où est-ce qu'ils sourcent ces fournisseurs? Comment ils les sourcent et autres pour en fait sécuriser son modèle d'affaires?
Ok. Et quels sont les retours justement là, de tes clients après un an client prospect? Tu vois, quand tu... Alors, t'as une stratégie de branding, on peut en parler ici, hein, mais t'as une stratégie de branding qui est vraiment ancrée sur l'aspect RSE, ce qui fait que l'avantage, c'est que tu attires des clients ou des prospects qui sont intéressés par ces sujets. C'est quoi un peu les retours sur les sujets quand tu leur parles de ça au rendez-vous?
En fait, aujourd'hui, on a deux typologies de rendez-vous. On a le rendez-vous du prospect qui s'attend pas à ça. Mmh. Et en fait, il s'attend pas du tout à ça. Quand je lui évoque le sujet, il est un peu surpris. Mais en fait, il est surpris de la bonne façon. C'est-à-dire que bien souvent, quand je rencontre le prospect, quand j'embraye sur le sujet, il me dit « Oui, en effet, j'en ai pris compte, mais je ne l'ai pas présenté dans mon prévisionnel. Voilà. » Dernièrement, j'ai un prospect, c'est un créateur d'entreprise qui veut travailler dans le transport routier. Mmh. Voilà. C'est, veut transporter des colis. Bon, on se dit « Bon, c'est pas hyper RSE, etc. »
Ouais, sur le papier, ouais.
Voilà.
Et pourtant.
Et en fait, quand j'ai échangé avec lui, il avait préparé tout un pré-prévisionnel, etc. Mmh. Voilà, il présentait et je lui dis, bah, du coup, comment tu te vois demain avec les zones faible émission, etc. et autres, par rapport à tes clients qui vont te demander des comptes à rendre par rapport à ton bilan carbone et autres. Mmh. Et là, il m'a dit, bah, en fait, j'ai fait toute une analyse auprès des différents fournisseurs, etc. Aujourd'hui, la technologie n'est pas mature. Donc, je ne vais pas pouvoir investir dans des véhicules électriques poids lourds. Mmh. Mais par contre, je me positionne plus sur un crédit bail, un leasing, pour toujours être aux normes et pouvoir après acquérir, quand la technologie sera mature, un véhicule à faible émission.
Okay.
Et là, on se rend compte qu'au final, c'est l'expert comptable. S'il n'aborde pas le sujet, en fait, il ne comprend pas le modèle économique de son client. Il passe à côté d'une étape. Ça, c'est le cas, on va dire, du prospect qui est premier abord pas du tout concerné. Mmh. Et on a le cas du prospect qui au contraire va être extrêmement concerné parce que c'est au cœur de son activité. Mmh. Aujourd'hui j'en ai quelques-uns comme ça. Mmh. Et en fait on se rend compte que même si la personne va être très engagée en termes environnemental, va avoir des formations, etc., faire des bilans carbone et autres, et ben en fait le rôle de l'expert comptable et mon rôle aujourd'hui, parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, c'est de lui dire c'est très beau ce que tu fais, mais aujourd'hui, socialement, est-ce que tu estimes que tes rémunérations sont suffisantes pour tes salariés? Et là, il y a eu un petit froid et il disait, bah non. Non, il manque 25% de salaire, etc. Voilà. Et du coup, là, on embraye sur tout un sujet du coup, plus social pour lui permettre de comment on fait pour combler. Donc, c'est peut-être mettre en place par étape, c'est déjà identifier l'écart de salaire. Première étape.
Ouais.
Deuxième étape, c'est si on est un peu principe de start-up, c'est comment on incentive les salariés. Mmh. Donc peut-être mettre un intéressement, des primes d'objectifs, etc. En fait, permettre de combler cet écart à terme.
Comment tu définirais, donc là je vois bien le rôle que tu peux avoir avec eux, comment tu définirais en fait la différence entre la RSE greenwashing et la RSE concrète que tu peux faire?
En fait, moi je pars du principe que la RSE, c'est avant tout des actions très concrètes. Mmh. Si le client te dit, ce que je veux faire, c'est faire des posts LinkedIn sur ma démarche RSE, moi je lui dis, c'est bon, c'est pas mon sujet, tu vas avoir une boîte de com.
Ouais.
Ils te feront du greenwashing, il n'y a pas de souci, ou voire même du social washing. Mmh. Moi, les cabinets d'expertise comptable aujourd'hui, les démarches de communication par rapport aux campagnes de recrutement et autres, bon, on peut peut-être parler certaines fois de social washing.
Mmh.
Voilà. Quand on met en avant le fait qu'on forme les collaborateurs, je pense qu'on peut dire que c'est dans l'ADN d'un cabinet de former ses collaborateurs.
Oui, ça devrait être la base. Compte tenu des nombreuses évolutions, la formation fait partie intégrante de la vie en cabinet et en entreprise de service au sens large.
Donc moi, en fait, ma position, c'est... On fait le point sur les comptes. Faut avoir une donnée financière fiable. Mmh. On identifie les risques, les enjeux. On discute ensemble des actions qu'on va mettre en place, step by step. En fait, on profite de la relation long terme qu'on a avec les clients pour mettre en place des actions qui vont s'échelonner peut-être sur 5 ans. Mais l'objectif, c'est de pouvoir évoluer et faire évoluer le client.
Sur un cabinet qui nous écoute, tu vois, là maintenant, qui n'a pas encore mis en place ni d'offres RSE, ni potentiellement de démarches RSE en interne, tu vois, on va prendre un cabinet, allez, moins de 10 ou d'ailleurs moins de 50, qu'est-ce que tu recommanderais pour commencer, par où commencer?
Il y a deux possibilités. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font leur mémoire d'expertise comptable sur le sujet.
Ok.
Et qui m'ont contacté et qui se disent « Ouais, je vais le faire en interne. » Voilà.
je vais lancer la démarche
en interne. Ouais, okay. Tout à fait. Et moi, je les mets en garde, c'est qu'en fait, on est des êtres humains, mmh. et c'est très rare qu'un être humain aime se faire battre.
Voilà. Sauf cas exceptionnel.
Voilà. Donc en gros, très clairement, la démarche interne, bah oui, l'expert comptable va y aller, mais si c'est pas lui qui l'initie, en fait, ça sera de la demi-mesure.
D'accord, c'est dans ce sens où tu dis, tu peux mettre quelqu'un qui bosse dessus, mais au final, au moment où ça va arriver sur le bureau de l'associé, ça va finir dans... Ouais. Ok, d'accord.
J'ai échangé avec une personne, bref, qui me présentait une démarche RSE dans un cabinet, mmh. et je lui dis, bah ok, moi je vais te poser une question, c'est est-ce que le cabinet est 100% des maths ? Mmh. Et la personne m'a dit non. Voilà. Je lui dis, bah, au lieu de parler de recyclage de stylo, etc., déjà tu supprimes le papier, ça sera très bien.
Ok, ouais, c'est déjà la première étape. Ça voilà, c'est, ouais. c'est très concret, c'est déjà la première étape. C'est-à-dire que si tu veux passer dans une démarche RSE, déjà tu passes en full des maths.
Voilà, et le moyen le plus simple, tu supprimes les imprimantes.
Ouais.
Et si t'as pas d'imprimante, t'as pas de papier.
Ouais.
Et quand tu regardes, t'as beaucoup de cabinets qui disent, oui, on est passé en des maths, pourtant tu fais le tour des bureaux, tu trouves une imprimante à chaque coin, quoi.
Ouais.
Bon, bah. Voilà, je pense que tout est dit.
Ok, première étape. Et en effet, donc ça recoupe avec aimer ouais. se faire un peu taper sur les doigts, parce que du coup, quand tu vas aller annoncer ça à quelqu'un, on enlève toutes les imprimantes, c'est le step 1. Il y a moyen que tu repartes avec ton papier, ton dossier sous le coude.
Okay. Voilà.
Ok, donc ça, c'est vraiment la première démarche.
Mmh, tout à fait. Donc voilà, après ça. Et ensuite, l'autre possibilité, c'est de se dire, voilà, moi en interne, j'ai besoin de travailler sur le sujet, etc. Mmh. C'est en fait de réfléchir aux vrais enjeux qu'on a. Aujourd'hui, l'enjeu, bon, c'est un secret pour personne, hein. C'est la partie RH. Mmh. La partie RH, ça passe par l'équilibre vie pro, vie perso. Mmh. C'est peut-être je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un associé qui interroge ses collaborateurs au mois de février en leur disant « Est-ce que ça va ?» Est-ce que tu vas bien ?
Ouais, il y a des petits moments d'échange comme ça qui peuvent disparaître parfois.
Voilà. Je pense que au mois de février, on est plutôt où est mon dossier ? Puisque, et toi, tu vas bien ? Est-ce que tu as besoin d'un jour de congé ?
Ouais. Oh, ça va, février, ça n'a pas encore vraiment commencé. C'est à partir de mars où ça tire vraiment.
Ok. Non, mais voilà. En fait, c'est. Après, tout va dépendre de la maturité de chaque cabinet sur ces sujets-là.
Oui.
Moi, je n'ai pas la science exacte. Mais je dirais juste, en interne, faites-vous accompagner par quelqu'un d'extérieur qui sera en mesure de mettre le doigt là où ça fait mal.
Ouais.
Voilà.
Oui, parce que du coup, le fait de faire travailler quelqu'un en externe, ça te donne une vision extérieure, plus haute du projet, et ça te permet d'avoir quelqu'un qui va venir te faire avancer, c'est ça ?
Voilà. Okay. En fait, c'est vraiment avoir la vision extérieure, la vision de quelqu'un qui... qui sera en mesure de remettre en cause les décisions prises. Si ça reste interne, en fait, en interne, on revient sur le principe de aimer se faire battre ou pas, on sera toujours sur un espèce d'équilibre. Voilà. Oui, on va y aller, mais d'un autre côté, pas trop.
Est-ce que toi, tu as été consulté ou pas encore par des confrères, consoeurs pour une mise en place de démarches en interne et potentiellement une création d'offres RSE ou pas encore ?
J'ai eu 2-3 questions ouais. par rapport à des experts comptables stagiaires qui faisaient leur mémoire.
Ouais.
Après, j'ai pas de confrères qui m'ont interrogé purement par rapport à ça.
Ok. Pour autant, à ton avis, dans quelle mesure c'est indispensable de se commencer soi-même par la démarche ? Est-ce que tu peux commencer à faire des missions RSE si tu t'es pas déjà mis toi-même ? Parce que j'en entends beaucoup qui me disent oui, il faut aller sur la RSE. Et quand on discute un peu, quand je creuse, je me dis bon. J'ai deux, trois doutes, donc c'est intéressant d'avoir ton feedback concret puisque tu l'as fait et tu le fais pour tes clients.
En fait, c'est un peu un jeu à trouver. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des cabinets qui ont développé des services RSE, et en fait, avec des consultants RSE. C'est-à-dire que ce n'est pas avec des collaborateurs comptables, c'est avec des consultants RSE.
D'accord.
Et en fait, la question, c'est demain, pour un cabinet de taille plus réduite, qui n'a pas nécessairement les moyens d'investir dans un consultant RSE, c'est comment on fait pour embarquer les collaborateurs pour accompagner les clients. Et en fait, c'est ça l'enjeu, c'est qu'en le faisant en interne, on a la capacité de montrer aux collaborateurs l'intérêt que ça a, et du coup, qu'ils puissent après présenter aux clients l'intérêt que ça a également de mettre en place ces actions, cette démarche, etc.
Donc être le rôle modèle, parce que embaucher des consultants RSE, oui, je pense que c'est des cabinets dont tu parles, c'est des cabinets qui sont quand même sacrément, enfin à taille structurée, oui. Quoi.
Tout à fait.
Mais ce qui va vers l'avenir des nouvelles missions, et ce qu'on pourrait extrapoler, à mon sens, c'est la même logique que sur la mission digitalisation, c'est-à-dire qu'encore faut-il bien se le faire soi-même en interne, processer potentiellement les différentes étapes et les livrables attendus pour pouvoir derrière le proposer, le packager et démontrer la valeur que ça peut avoir pour les clients.
Oui.
Concrètement, du coup, alors, quel serait selon toi le plan d'action qu'on pourrait recommander sur... On va garder quand même la logique, parce qu'on sait que parfois c'est un peu dur de faire appel à quelqu'un externe, oui. Même si on pourra te contacter sans aucun doute sur LinkedIn, entre autres, pour en parler avec toi. Mais quel serait dans la logique le début de la démarche, tu vois, si on devait dire un début de plan d'action, ok, on enlève l'imprimante, mais pour l'expert comptable stagiaire qui va rédiger son mémoire sur le sujet parce que ça l'intéresse, parce qu'il a besoin de donner du sens dans ce qu'il fait, parce que les cabinets ont besoin de le faire, quel serait le début du plan d'action à mettre en place au sein du cabinet?
On va revenir au début de l'interview, c'est-à-dire déjà interroger les associés en place. Pour savoir, eux, comment ils analysent la création de leur valeur en interne.
D'accord. Donc ça, c'est la première question. Bam, comment t'analyses la création de valeur? Okay.
Comment ils s'enrichissent, en fait, aujourd'hui?
Ouais.
En fonction du cabinet, ça va être complètement différent. Il y a des cabinets qui vont être portés que sur du conseil, d'autres qui vont être portés que sur de la saisie comptable, qui vont faire plutôt du volume, etc. Et en fait, ce point d'entrée va permettre d'identifier déjà les enjeux business qu'ils ont. Et ensuite, on va pouvoir dérouler un peu plus en détail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cabinet qui fait 100% de saisie et qui vise un volume important, on va peut-être s'interroger sur des aspects plus équilibre de vie pro, vie perso, des aspects vraiment... au final, le client, comment est-ce qu'il me dépose ses documents? Est-ce que mes plateformes sont, on va dire, des plateformes responsables? Est-ce qu'on a des sujets autres? À l'inverse d'un cabinet plus porté sur le conseil, valeur ajoutée très élevée, où là on va être sur de la formation des collaborateurs, maintien des compétences, et sur des notions un peu plus concrètes de partage de valeur. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cabinet qui fait énormément de conseils, des missions à forte valeur ajoutée, y a un moment... On ne va pas se le cacher, c'est-à-dire que quand on fait une mission de conseil qui n'est pas la mission régalienne, comment on s'assure que le collab ne devient pas indépendant demain? Il ne se lance pas auto-entrepreneur, etc. Comment on parvient à conserver notre source de création de valeur?
Ok. Donc ça, c'est la première question à se poser. Ensuite?
Et ensuite, on va dérouler un peu plus concrètement, c'est-à-dire qu'on va un peu lister les différents points qu'on a en interne, c'est-à-dire que quels sont les fournisseurs, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on se situe, comment est-ce qu'on a des problématiques internes et autres. En fait, l'idéal, deuxième étape, c'est on envoie un petit questionnaire aux collaborateurs et on leur demande très concrètement comment est-ce qu'ils viennent en véhicule, est-ce qu'ils viennent en voiture ou pas. Est-ce qu'ils trouvent qu'on est bien situé? Pareil par rapport aux outils. Comment est-ce qu'on utilise les outils? Est-ce qu'on utilise les outils numériques ou pas? Comment ils se sentent également?
Ouais.
L'idéal, c'est deuxième étape, c'est interroger en interne. Comment ça se passe en interne? Où est-ce que les gens en fait estiment qu'il y a un travail à effectuer?
Ok.
Ça, c'est la deuxième étape. Après, on peut élargir auprès de clients, fournisseurs, pour avoir également leur avis. Mais là, on est déjà sur des étapes un peu plus engageantes auprès des tiers.
Ok. Bon, les fournisseurs, à la limite, je peux comprendre, ça peut se faire dans une logique de démarche. Les clients, en effet, on peut entendre parfois certains qui vont être un peu plus réticents à leur poser des questions sur notre propre démarche RSE si on n'est pas encore bien avancé.
C'est ça.
Ok. Donc là, on a fait les associés pour savoir où était la proposition de valeur, ce qui est un élément super intéressant, même en réflexion stratégique globale du cabinet. Donc c'est l'occasion de faire un double travail. Ensuite, tu poses la question aux personnes internes et potentiellement aux parties prenantes à voir. Donc ça, sous forme de questionnaire que tu envoies. Qu'est-ce que tu fais après?
Et après, en fait, on va venir un peu confronter les deux.
D'accord.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir... la partie création de valeur, la partie, on va dire, un peu en jeu, voilà, la vision des parties prenantes, comme tu l'as évoqué, et bah, comment on fait pour matcher les deux. Voilà. C'est-à-dire que faire du business, oui, après, il ne faut pas en faire n'importe comment, et c'est vrai que c'est là où, en fait, va avoir tout un jeu d'équilibriste à trouver, entre bah, répondre aux enjeux prioritaires, tout en maintenant, au final, le modèle d'affaires.
Et comment tu fais pour prioriser? Parce que j'imagine du coup à la fin je me mets à la place hein, de l'expert comptable stagiaire qui est en train de travailler sur ça, qui a pris du temps avec les associés, qui a réussi à les avoir, qui a réussi à mobiliser les équipes pour avoir un maximum de réponses. Du coup l'étape 3 à mon sens, je pense que ça va être un peu le plan d'action, histoire que ça reste pas un document PDF qui soit sur un drive. Comment tu priorises toutes ces actions? Parce qu'il doit ressortir pas mal de recos. Comment tu choisis quel reco tu fais passer devant?
En fait, prioriser, c'est également renoncer à une partie. Et là où ce qu'il faut chercher, et c'est là où le vrai rôle de l'expert comptable rentre en jeu, c'est le retour sur investissement. Voilà. Aujourd'hui, on faut toujours se dire, on travaille dans un contexte économique pour une entreprise, il faut un retour sur investissement. Mettre en place une action où on n'identifie pas de retour sur investissement, c'est mettre en place une contrainte complémentaire pour tout le monde. Aujourd'hui, dire on va mettre en place un plan de formation pour tous les collaborateurs pour qu'ils maîtrisent parfaitement l'utilisation de ChatGPT, voilà, ça a un coût, certain, mais on estime un retour sur investissement qui va être peut-être de gagner, d'économiser 2 heures par semaine par collab. Et en fait, c'est ça l'enjeu, c'est le retour sur investissement par rapport au modèle d'affaires, au risque.
Donc au moment où tu fais le plan d'action, tu fais ton plan d'action en te positionnant sur le ROI potentiel des différentes actions et tu les priorises en fonction du ROI.
Voilà. L'objectif étant toujours de prendre les enjeux les plus importants et de découler. Voilà. Après, en fait, plus l'enjeu va être important, et il faut bien le garder en tête, plus l'enjeu va être important, plus les actions et la démarche va être longue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si dans le cabinet, il y a un vrai sujet de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, d'équilibre de rémunération et autres, on va se dire les choses. Ça ne va pas se transformer en un an.
Non, bien sûr.
On va parler d'une transformation peut-être sur 5 ans, et ça se construit sur le long terme. Donc l'enjeu, ça va être... Ce que tu évoquais, c'est d'identifier les actions qui vont être en mesure de rapporter le plus de choses dans des délais temporels maîtrisés.
Ok, et ça tu le suis, il y a des outils pour ou c'est un responsable en interne qui s'en occupe et qui le porte-voix? C'est quoi les bonnes pratiques?
En fait, après, par rapport au suivi de ce type de plan d'action, l'idéal c'est de les inclure en même temps que le suivi des indicateurs financiers.
Ok.
C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, j'ai les clients que je suis, voilà, où on identifie une action, et ben, j'ai leur, on va dire, objectif financier, et en dessous, j'ai leurs objectifs RSE. Et quand je fais le point sur les objectifs financiers, je leur dis, bah, t'en es où des actions suivantes, ces deux actions-là qu'on avait identifiées comme étant prioritaires pour toi?
T'arrives à recroiser en fait systématiquement, et ça c'est une valeur à mon avis qui doit être splendide à démontrer, t'arrives à recroiser les éléments financiers avec les éléments RSE par rapport aux objectifs que tu leur as fixés dans l'onboarding quoi.
En fait c'est des objectifs complémentaires.
Ouais.
Aujourd'hui c'est des objectifs complémentaires, c'est-à-dire que dire qu'on met de côté le bien-être au travail, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied pour demain ne pas réussir à recruter ou devoir recruter.
Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Sur le papier, oui. C'est après, dans les faits, justement, ce qui m'intéresse, c'est comment, en fait, tu arrives à l'ancrer dans le quotidien des entreprises et qui, en fait, en prend, en quelque sorte, l'ownership, mais je voulais pas faire d'anglicisme, mais qui prend le fait de gérer ça en interne, parce qu'on sait tous que dans les entreprises, il y a plein de, et dans les cabinets, il y a plein d'échéances, il y a la période fiscale, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup, c'est souvent, malheureusement, un moment où tout s'arrête. Bah, en fait, non, sur ce genre de démarches qui sont structurelles, bah, en fait, qui va gérer ça en interne? Comment on maintient les actions. Et ce qui est vrai, c'est que c'est pour les cabinets et c'est vrai pour les entreprises. Donc c'est intéressant d'avoir ton feedback sur comment tu le mets en parallèle avec tes clients et comment tu leur montres par rapport à leurs chiffres et le ROI. T'arrives à trouver d'ailleurs, parce que t'arrives à trouver un aspect héroïste à chaque action liée à la RSE ?
Idéalement, oui.
Ouais.
Mais il y a certaines, non. Voilà. Après, il y en a certaines, il faut rentrer dans des évaluations d'impact sur toutes les actions qui vont être plus ce qu'on va appeler sociétales auprès des parties prenantes et autres. Là, faut faire une évaluation d'impact parce que c'est des externalités positives. Donc, cet aspect-là va être un travail complémentaire à effectuer.
Ok. Tu peux nous rappeler les seuils pour les missions RSE ?
Pour les missions RSE.
Ouais. Enfin, je sais qu'il y a une histoire de seuil, tu vois, pour qu'on puisse arriver à se projeter et de se dire, ok, bah, c'est en dessous de tel effectif ou en dessous de tel chiffre d'affaires, un peu comme les seuils CAC. Sauf que, est-ce qu'il existe, ou du moins, parce que je vais reprendre ma question plutôt, est-ce qu'il existe des seuils pour faire des missions RSE ou est-ce que tout le monde, ça concerne tout le monde?
En fait, dans les missions RSE, il y a les missions liées aux obligations légales qui existent. Donc à terme, là, les seuils, ça, on va passer sur... Moi, je simplifie.
Ouais, bien sûr.
C'est, grosso modo, vous intervenez dans une structure qui établit des comptes consolidés. Voilà, ils sont soumis au prochain rapport de durabilité.
OK.
Voilà. Ouais, plus ou moins quelques millions. Après, il faut rentrer dans le détail. Mais moi, quand j'ai échangé avec les gens, je leur dis, tu fais des comptes conso, ils disent oui, prépare-toi, tu vas y passer.
OK. Voilà. Ça c'est des missions de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes?
En fait... Il y a deux sujets. Il y a le sujet audit. Là, c'est mission de commissaire aux comptes, élargie à d'autres tiers également. Mais il faut également avoir en tête qu'aujourd'hui, un client qui fait 50 millions, 100 millions de chiffre d'affaires externalise sa consolidation. Voilà. Parce qu'il estime ne pas avoir les compétences en interne.
Okay.
S'il estime ne pas avoir les compétences en interne pour consolider des données financières qui sont extrêmement normées et sur un périmètre France, vous pouvez bien vous douter que pour être en mesure d'établir un rapport consolidé d'informations extra-financières, là, il va vraiment partir de très, très loin. Donc, l'enjeu, en fait, c'est l'expert comptable, aujourd'hui, a les capacités, au final, de répondre à cette demande. Pourquoi il a les capacités ? C'est qu'en fait, il connaît le modèle d'affaires du client, il connaît les enjeux du client, il est en mesure de mettre en place des process en interne pour collecter et fiabiliser les données et il a l'habitude de faire des rapports. Et là, c'est juste, au final, c'est un rapport complémentaire à établir pour le client.
OK.
Et ensuite, pour les autres missions RSE, il n'y a pas de seuil. En fait, on peut être sur une TPE qui a un salarié, voire pas de salarié. Et en fait, le dirigeant a envie de mettre en place une démarche, d'analyser ses impacts, de pouvoir choisir ses fournisseurs et autres, et charge ou expert comptable de l'accompagner dans ces sujets.
Ok, c'est l'occasion de se positionner en fait dès le départ sur une position de consultant plutôt qu'une C'est l'occasion de se positionner sur une position de consultant plutôt qu'une position de comptable, quoi, en quelque sorte.
Oui.
En te rajoutant ça. D'où le fait qu'il y ait des gens qui ont des cabinets qui embauchent des consultants RSE qui ne soient pas du coup du salarié, mais qui vont proposer ce type de mission sur tout leur portefeuille client.
Voilà. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est pour avoir échangé avec beaucoup de dirigeants, aujourd'hui, ils attendent et ils aiment cet aspect-là de faire appel à quelqu'un qui travaille dans le milieu de la comptabilité pour traiter les sujets RSE, parce qu'en fait, les consultants, c'est sympathique. Mais un consultant reste un consultant, c'est-à-dire qu'il va faire sa mission et après il va en sortir. Et souvent le consultant, il maîtrise moins bien le modèle d'affaires, le fonctionnement en interne, que le cabinet expertise comptable, qui connaît déjà parfaitement son client, qui connaît déjà parfaitement comment fonctionne intellectuellement le dirigeant. Alors que le consultant, lui, il va intervenir en one shot pour accompagner ses clients.
Donc c'est là où il y a toute la légitimité de l'expert comptable à y aller dès maintenant.
En fait, c'est vraiment cet aspect-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expert comptable accompagne son client et il doit l'accompagner sur l'ensemble de ses risques. Et le client, en fait, attend de l'expert comptable que tous les risques lui soient présentés. c'est très important parce que là, moi, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs qui me disent mais j'ai envie de traiter le sujet de la biodiversité. Sauf que mon expert comptable n'est pas me produit les comptes en juin. Et en fait, rien que pour produire les comptes, ça a été une galère peu possible. Et du coup, bah après, je suis re-rentré dans mon cycle d'activité. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps de traiter le sujet.
Okay.
Parce que j'ai pas eu les comptes fiables, parce que j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un pour traiter le sujet.
Et il n'y a pas eu d'alignement à ce moment-là, quoi.
Voilà.
Okay.
Donc, c'est vrai que là, les entrepreneurs, en fait, nous attendent.
Ouais.
Et
ouais, ça, c'est, je veux dire, tu le ressens vraiment, quoi. Dans tous les échanges que tu peux avoir avec les prospects, avec les clients, c'est un vrai rôle sur lequel ils attendent l'expert comptable avant de se faire piquer la place par des consultants, quoi.
Ouais.
C'est vrai autant.
En fait, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que souvent, les clients viennent me voir pour la partie comptable. Et quand je leur évoque l'aspect mission RSE complémentaire, c'est même pas complémentaire, en fait, c'est la mission RSE est dans la mission comptable.
Ouais.
Et ben, les clients, ils disent « Ah ouais, c'est super. C'est super parce que justement, je souhaite travailler sur ces sujets-là. » Et en fait, ça change leur regard par rapport à mon activité. Et je ne suis pas celui qui fait des TVA, je suis leur accompagnant et je vais les accompagner face à tous leurs enjeux.
Ça t'a permis de te positionner en fait exactement en conseil général direct, quoi.
Tout à fait.
Ok.
En fait, c'est ce qui est très marrant. Du coup, souvent, j'ai des prospects, voilà, on échange, etc. Je leur évoque l'aspect RSE. Mmh. Hein, le rendez-vous prospect termine et... je renvoie la proposition et après il me renvoie un message en mode mais au fait tu fais bien mon IS et ma TVA.
Ouais, ça vient qu'après quoi.
Voilà, en fait ça vient complètement après. En fait ça change complètement leur vision, leur regard, c'est-à-dire qu'ils se disent ah mais en fait initialement je cherchais quelqu'un pour faire mon IS fiscal. Okay. En fait ils étaient tellement intéressés par l'autre aspect qu'ils en ont oublié au final l'aspect purement fiscal. Et c'est moi, mon regard, c'est que demain, l'expert comptable, moi, je ne vise pas à être rémunéré sur ma capacité à faire une TVA ou une IS fiscale.
Donc, si je résume, pour qu'un maximum d'auditeurs puissent le mettre en place aujourd'hui, c'est d'une part, on commence par soi, on se repose bien la question de la proposition de valeur qu'on est capable de délivrer. On regarde par rapport aux parties prenantes internes, externes, on commence à mettre en place des actions chez nous et on enlève l'imprimante du coup en action simple, on l'avance chez nous et puis après on endosse en fait ce positionnement et on en parle parce que du coup il y a une attente du côté entrepreneur, du côté organisation, parce qu'on l'a pas dit mais tu bosses aussi pas mal avec des associations. Donc j'imagine que c'est aussi un sujet pour tout le monde, mais il y a vraiment ce costume à endosser quoi, et ça t'a aidé et ça aide à changer la perception et à changer la vision en fait de la personne en face de toi, de ce qu'elle attend toi.
Oui.
Ça te prend vraiment une autre posture, quoi.
Oui, tout à fait.
Magnifique pour ce feedback. Il nous reste un petit peu de temps. Je voudrais juste qu'on revienne parce qu'on est passé très vite au début sur le sujet de la création. En rapide, qu'est-ce qu'auraient été les pièges à éviter de la création ex nihilo, si on peut les partager aux personnes qui nous écoutent?
Je pense que le premier piège, et on a beau l'entendre, c'est toujours du bien de le rappeler. Il faut éviter de faire trop de sous-traitance.
D'accord.
Aujourd'hui,
pourquoi?
La création ex nihilo. Un cabinet expertise comptable, c'est une création vraiment sur le long terme. C'est-à-dire qu'on investit sur le long terme et il faut être en mesure d'investir du temps au début pour être présent, pour faire vivre son réseau, pour échanger avec les gens, pour discuter, pour faire de la communication. Et si on prend de la sous-traitance, ok, ça nous rassure. Mais au final, ça nous met dans un tel jus que on passe à côté de sa création.
Ok.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'identifier sa création de valeur. Si au lancement, on n'a pas de création de valeur spécifique, vaut mieux rester salarié. Il y a assez de cabinets qui cherchent des experts comptables pour les associer. Si on n'a pas une vision précise, quelque chose qui nous tient à cœur, moi, j'ai qu'un conseil à donner, c'est aller dans un cabinet qui existe déjà, où vous serez aussi bien, vous serez voire mieux rémunéré à court terme. Voilà. n'y a pas de raison de vouloir réinventer la roue qui existe déjà.
Ouais. Ok.
Donc ça c'est les deux éléments, et troisième élément, c'est surtout de se faire confiance. Voilà. C'est,
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux développer un peu?
En fait, c'est au moment où je me suis lancé, je me suis dit, ouais, ça va être compliqué, trouver des clients, être tout seul, sans filet. En fait, c'est ça la notion de sans filet. Et en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est collaborateur, on est formaté, on se fait formater au fil des années d'études et autres, comme quoi on est juste un faiseur et pas le chef. Et c'est vrai que du coup, on rentre dans un moule où bah, on a peur de devenir entrepreneur. Alors qu'on reste normalement une profession réglementée où normalement on est tous amenés à pouvoir devenir indépendant. Et je pense qu'on est peut-être dans la profession où eh ben, on est le moins préparé à devenir indépendant. Donc c'est vraiment cet aspect-là, se faire confiance, se lancer et se faire accompagner au besoin par le CJEC ou, et ne pas hésiter à échanger.
Magnifique. Et en facteur clé de succès, du coup, bon, bah, tu l'as dit, l'accompagnement. Est-ce que tu vois d'autres points, d'autres petites astuces que tu aurais pu mettre en place et qu'on pourrait partager pour quelqu'un qui veut se lancer?
Après, maintenant, il y a le grand classique LinkedIn.
Ouais. Donc, être vraiment présent.
Voilà, être présent sur LinkedIn, c'est de la pub gratuite. Voilà. Après, c'est un travail à part entière. Et en fait, le tips, c'est apprenez à le faire vous-même pour après pouvoir le déléguer au mieux. On va dire, si vous déléguez tout de suite une création de contenu à un cabinet extérieur, très bien, mais au final vous ne maîtriserez pas leur création de valeur à eux, et du coup vous perdrez un peu, vous vous direz ouais en fait ça sert pas à grand chose, etc. Alors que si vous maîtrisez tout de suite les fruits et vous voyez l'impact que ça a et le travail que ça a, soit vous y prendrez plaisir à le faire, du coup vous continuerez à le faire, soit vous pourrez le déléguer à terme.
Et orienter bien la façon dont c'est délégué, sachant que sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, ce qui prime aujourd'hui, et ce qui a toujours primé d'ailleurs depuis les 6-7 ans que je suis dessus, ça reste l'authenticité, quoi. Donc ça sert à rien de faire du bullshit, ça sert à rien de faire des posts qui sont toujours les mêmes, ou de se copier les posts les uns des autres, c'est avant tout déjà de... notamment, bah, surtout quand t'es en création ex nihilo, quoi. Vraiment faire passer le pourquoi t'as créé ton cabinet, quelle est ton offre, qu'est-ce que c'est. Si tu recrutes, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que vraiment, qu'est-ce qu'on va venir retrouver chez toi? Mais c'est de l'authenticité. Et après, ça veut pas dire qu'on peut pas le sous-traiter. Tu as très bien dit, une fois que t'as pris en main, que t'y as mis ta patte, bah, la personne avec qui tu vas le sous-traiter comprendra mieux quelle est ta patte, quel est ton pourquoi, comment tu écris et pourra te faire gagner du temps sur ces sujets, voire t'optimiser les postes et puis après tu les postes. Enfin, il y a plein de formules, quoi.
Tout à fait. Et quatrième conseil, il faut abuser de ChatGPT.
Ah ouais? Comment tu l'utilises toi concrètement aujourd'hui?
Moi je l'utilise trois aspects.
Ouais.
Premier, c'est dans le cadre de la rédaction de mes posts LinkedIn. C'est-à-dire que je prépare un post, je le mets dans ChatGPT. Et en règle générale, pour avoir fait le test quelques fois, voilà, je fais deux fois plus d'impressions. Avec que 100.
Ok, quand il te le retravaille. Mais voilà. Toi, tu lui fournis la base. C'est ça qui est important. Ouais. Si tu lui fournis la base.
En fait, moi, je lui fournis vraiment tout le contenu du poste. C'est-à-dire de A à Z. Je lui dis juste voilà, qu'il est quelqu'un spécialisé dans le marketing et autres.
Oui, tu lui as fait un bon prompt.
Voilà. Et après, je lui mets le poste et il me le retravaille. Parce que j'ai également fait le test de créer un poste de zéro en lui disant bah, crée-moi un poste sur ce sujet-là.
Voilà. C'est moyen. Ouais, aujourd'hui, on enregistre fin 2023 et j'avoue que c'est pas encore le top, même avec GPT-4 Turbo qui vient de sortir.
Ouais. Donc, j'utilise pour les posts LinkedIn. J'utilise également pour la prise de connaissances rapide de secteur.
Ouais, carrément.
C'est-à-dire que voilà, j'ai besoin d'une information, d'une présentation en 5 mots de, on va dire, des aspects concrets d'un secteur d'activité que je ne maîtrise pas parfaitement. Je lui mets, il me fait une présentation rapide du secteur, comment ça fonctionne, présentation d'une zone géographique et autres. Ça me fait gagner énormément de temps dans de la recherche documentaire et de la maîtrise du secteur.
Ouais.
Et après, je suis amené à l'utiliser, ça va être sur la création de contenu pour le site internet. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, fin 2023, c'est toujours pas posté.
Mais tu l'as dans les cartons.
Voilà, je l'ai dans les cartons. Parce qu'en fait, c'est comme pour LinkedIn, il faut de la récurrence.
Ouais.
Donc, je préfère en avoir quelques-uns d'avance. Et en fait, ça permet de, nous, de donner une structure dans la création du contenu pour le site internet.
Okay.
Il va te permettre de te mettre des titres, en fait, les titres qu'aime Google, voilà, par rapport à ton sujet, pour pouvoir mieux ressortir.
Optimiser ton référencement naturel.
Tout à fait.
Donc en fait, tu t'es quasiment mis un ChatGPT pour 20 euros par mois et ton assistant marketing personnalisé, quoi.
Je dirais pas jusqu'à un assistant marketing, mais en gros, c'est le stagiaire qui me permet de travailler sur
stagiaire.
Les sujets-là.
Non, super intéressant. J'adore la façon que tu as de l'utiliser sur la préparation des rendez-vous, justement. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui doit être fait et partagé au plus grand nombre parce que c'est tellement utile avec un bon prompt d'avoir des informations et une vision globale sur des secteurs d'activité, d'autant plus maintenant où il peut aller chercher sur Internet au moment où on parle, mais au pire, ça va sauter puis ça reviendra. Enfin bref, dans tous les cas, les données en plus ont été actualisées à 2023. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Et là, évidemment, l'optimisation des postes, c'est quelque chose qui fonctionne bien quand on a le bon prompt. Ouais. Ok, magnifique. Est-ce que tu vois des choses à ajouter?
Bah, je dirais avant tout que la création d'un cabinet, c'est une aventure unique.
Ouais.
Voilà. C'est, on crée un seul cabinet. Bon, il y en a quelques-uns qui en créent deux, mais...
En tout cas, tu crées le premier.
Voilà, créer le premier, c'est vraiment quelque chose d'unique.
Ouais.
C'est comme un bébé, c'est-à-dire que il sera unique.
Ouais.
Faut pas se dire... Moi, je pense vraiment que quelqu'un qui crée pour se mettre dans un franchise ou dans un réseau, c'est peut-être un peu renier sur son rêve.
Ah, je te dirais que ça dépend des rêves de chacun, mais c'est très perso, en tout cas. Mmh, mais ça. En tout cas, toi, dans l'optique, dans la façon dont t'as voulu le faire, tu te l'es créé unique dans tes objectifs et avec clairement à ton image, quoi.
Voilà.
Magnifique. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, soit sur les sujets RSE, soit sur les sujets entrepreneuriat qui pourraient être utiles et qu'on mettrait en référence?
Pour la partie entrepreneuriat, là, je suis en train de lire en ce moment Influence et manipulation.
Ouais.
Très bon livre.
Un classique à lire à la création, de l'entreprise. Ouais.
Et je dirais même un classique à lire.
Dans la vie.
Voilà. Mmh. Avant 18 ans, il faut le lire parce que ça apprend un nombre de techniques commerciales et d'influence qui est incroyable.
Ouais. Et qui mérite, alors pour le coup, parce que nous, on le donne chez Booster Digital dès que quelqu'un arrive, c'est le premier livre que je donne. Pas toujours très simple à lire, pour être franc. Et en fait, on tire même beaucoup plus de substance quand tu arrives à le relire avec un petit moment de décalage. Parce qu'à 18 ans, en tout cas, personnellement, je n'avais pas du tout la maturité de bien le comprendre. J'ai dû le lire la première fois vers 20 ans ou quelque chose comme ça. Et je l'ai relu, et je le relis voilà, à peu près tous les 5 ans, histoire de me remettre un peu... alors, je vais plus vite forcément que la première fois, mais c'est vrai que tu as raison, il est super intéressant à lire et se relire. Et quand on le relit, on revoit des petits éléments qui arrivent. Donc, influence et manipulation.
Ouais.
Et sur la RSE, tu as peut-être un petit sujet...
Pour la RSE, pour l'avoir fait... on va dire la semaine dernière, je vous invite à assister à la formation méthode CARE, premier niveau, initiation. La formation dure 3 jours, elle est en visio, c'est par le cercle CERCES. Elle est extrêmement bien faite, le formateur est très inspirant, et surtout, il permet de repositionner le rôle de la comptabilité.
Okay.
En fait, on oublie trop souvent que la comptabilité... n'est pas un métier où on met des chiffres dans une case. On est surtout un métier qui vise à retranscrire des flux et une histoire. Et rien que ça, en fait, ça permet de se remettre dans les bottes d'un expert comptable. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des comptes parfaits. On est là pour retranscrire des flux et une histoire. Et si les flux et l'histoire, on n'a pas eu information de l'ensemble des éléments, bah, on ne peut pas bien retranscrire.
Magnifique. Est-ce que t'as passé un bon épisode?
C'était super.
Ouais, ça t'a plu?
Ouais.
Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. J'ai adoré faire cet épisode avec toi. J'espère que ça vous a plu aussi. Du coup, si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a plu. C'est un sujet qui est hautement important. J'aurais pu te demander quelle était la vision du métier dans 5 ans, mais compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, je pense que ça a transpiré le principe de l'accompagnement, du conseil et de la place prépondérante de la RSE au sein des cabinets. C'est pour ça aussi que je voulais vraiment faire ce sujet avec toi, tu vois, que ce soit quelque chose de terre à terre, avec tes vrais retours terrain, de comment toi tu le gères avec les prospects, avec les clients, et pourquoi aussi t'en as pris, t'as fait ce choix stratégique, et je pense que c'est vraiment ressorti dans cet épisode. Donc si vous êtes toujours là, vous connaissez la musique, hein, mettez 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur. Plus on a de 5 étoiles, eh ben, je sais pas vraiment ce que ça change pour être franc, mais dans tous les cas ça fait plaisir parce que ça montre un peu de soutien, et que faire ces podcasts ça nous demande du temps, et tout ça pour vous dire que partager cet épisode au plus grand nombre, je pense qu'il va être très très utile. Merci beaucoup Xavier pour tes retours, et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao Xavier.
Ciao.
Ciao.